C'est une première depuis 1946. La population calédonienne a baissé entre deux recensements. Les chiffres ont été officiellement communiqués ce matin. Nous sommes 264 596 contre 271 400 en 2019. Les signataires Union calédonienne de l'accord de Bougival désavoué, leur mandat tombe de fait et le comité directeur annonce que l'Union calédonienne rejette formellement le projet d'accord. David Guyenne placé en garde à vue avec deux autres personnes. Il s'agit d'une procédure qui vise les activités d'entrepreneurs du président de la CCI. Explication dans le journal. Le dispositif de continuité pays évolue. Un projet de délibération a été débattu en ce sens aujourd'hui au Congrès. Le gouvernement souhaite rationaliser les dépenses liées au dispositif. Et puis le sport et la natation. Maxime Grousset, champion du monde. Le Calédonien a décroché l'or la nuit dernière sur 50 mètres papillon au championnat du monde qui se déroule à Singapour. Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. 264 596, c'est le nombre de personnes vivant sur le territoire. L'INSEE et l'ISEE viennent de rendre publiques les premières données issues du recensement. Pour la première fois depuis 1946, la population a donc baissé entre deux recensements. Nous sommes aujourd'hui 264 596 contre 271 400 en 2019. Jean-Philippe Groutier, responsable du recensement à l'INSEE.
Depuis 1946, ça n'était jamais arrivé. Première fois que la population a baissé entre deux recensements. Là, entre 2019 et 2025, baisse. Ceci dit, le ralentissement de la croissance avait déjà été très marqué entre 2014 et 2019.
Donc là, concrètement, on passe de 271 400 à 264 596. Deux facteurs qui expliquent cela ?
Oui. Comme toujours, pour l'évolution d'une population. Une population peut évoluer soit via le solde naturel, la différence entre les naissances et les décès, soit via le solde migratoire, la différence entre les personnes qui arrivent pour s'installer dans le territoire, moins les personnes qui partent définitivement du territoire. Donc moins 7 000 entre 2019 et 2025 pour la population totale, plus 11 000 pour le solde naturel.
C'est-à-dire 11 000 naissances de plus
naissances
que de décès.
Naissances de plus que de décès. Et moins 18 000 pour le solde migratoire, donc 18 000 départ de plus que d'arrivée.
Pour Jean-Philippe Groutier, responsable du recensement à l'INSEE, qui était notre invité ce midi dans Infomag, les raisons peuvent être multiples et il conviendra d'affiner les études.
On a derrière cette baisse de population au moins trois phénomènes. Il y a un premier ensemble de phénomènes qu'on constate à peu près dans toutes les régions de France, dans toutes, même les régions d'Europe, qui est le vieillissement de la population. En conséquence, la baisse de la natalité, la baisse de la fécondité. Après, on a des choses qui étaient déjà visibles dans les données 2019. C'est qu'on avait déjà, entre 2014 et 2019, une baisse assez sensible de l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie. On avait déjà, à l'époque, entre 2014 et 2019, un solde migratoire négatif. Et puis, on a des éléments que je qualifierais un peu de conjoncturels. Entre 2019 et 2025, on a eu la crise du Covid, impact sur la mortalité, mais aussi impact sur les mouvements, les arrivées et les départs, et puis les événements de mai 2024 qui ont pu aussi jouer à la fois sur l'attractivité, mais aussi sur les départs.
Et les chiffres communiqués ce matin indiquent que ce sont les zones urbanisées qui ont perdu le plus de population.
En gros, moins 2,5% pour l'ensemble du territoire, moins 4% pour la province sud, plus 2%, on arrondit, pour le nord et les îles. Ça ne suffit pas à transformer massivement le poids relatif des trois provinces, bien sûr. Si on se dit qu'il y a en partie une moindre attractivité et un peu plus de départs, c'est beaucoup sur le Grand Nouméa que ça se joue. Nouméa est à 85 000 habitants. La baisse s'explique pour entre 35 et 40% par la diminution de la taille des ménages. Et ça, c'est un phénomène, là aussi, sociologique. C'est la conséquence du vieillissement, c'est la conséquence du moins d'enfants, c'est la conséquence des séparations, et pour deux tiers, par l'augmentation de la vacance des logements, qui passe en gros d'un peu moins de 9% à 15%. D'un BA à une perte très légère, Mondor perd à peu près 2000 habitants, et Païta continue à en gagner, parce qu'il y a eu encore, dans les périodes récentes, beaucoup de constructions.
Jean-Philippe Groutier, responsable du recensement à l'INSEE, qui était notre invité ce midi dans Infomag. Les premières données ont été publiées sur le site de l'ISEE. L'INSEE a mené ce recensement en partenariat avec l'ISEE, va maintenant publier des études tirées des questionnaires. Elles seront publiées sur plusieurs années. Venons-en à l'actualité politique avec ce coup dur pour l'accord de Bougival. Comme on pouvait s'y attendre, après les tensions du comité directeur de l'Union calédonienne réunis ce samedi à la tribu de Gatop, l'UC rejette formellement le projet d'accord et désavoue ses signataires, Elisabeth Noir.
Oui, la résolution de l'Union calédonienne adoptée lors de ce comité directeur a été rendue publique. Après de nombreux considérants, elle indique, et je cite, que l'Union calédonienne rejette formellement le projet d'accord de Bougival en l'état, en raison de son incompatibilité avec les fondamentaux de notre lutte et les principes de décolonisation. Elle ajoute que par voie de conséquence, le mandat des signataires du projet d'accord et de ses équipes tombe de fait. C'est donc un rejet de l'accord de Bougival que laissait déjà entendre le communiqué publié la semaine dernière par la commission exécutive élargie, et c'est un désaveu cinglant pour l'équipe de négociation UC, qui est pourtant composée de personnalités de poids. Il s'agit, rappelons-le, du président de l'Union calédonienne, le député Emmanuel Tchibaou, mais aussi de Rocco Miton et de Michael Forest. C'est clairement une lutte interne qui se joue au sein de l'Union calédonienne, où le secrétaire général Dominique Fauchy et ses équipes prennent de plus en plus de poids au détriment de l'UC historique. C'est aussi la tendance la plus proche de la CCAT, qui semble désormais mener le jeu. La résolution ajoute que cette décision sera notifiée à la puissance administrante, ainsi qu'à l'ensemble de nos soutiens internationaux. Certains voient d'ailleurs la main de l'étranger dans ce revirement de l'UC. Le dernier point de la résolution acte le travail de renforcement de l'unité du front, ainsi que celui de l'organisation des équipes sous la supervision du FLNKS. Il s'agit là du nouveau FLNKS, constitué autour de l'UCCCAT, qui doit réunir samedi un congrès extraordinaire et dans ces circonstances, on peut penser que le FLNKS, à son tour, rejettera l'accord de Bougival. À noter qu'il y a une incertitude aujourd'hui sur la date de ce rendez-vous du FLNKS. Le bureau politique était réuni ce matin et il devait décider d'un éventuel report. La balle est sans doute désormais dans le camp de l'État qui va devoir tirer les conclusions de la situation. On rappelle que sur les délégations signataires, une majorité soutient l'accord de Bougival. Il s'agit des loyalistes du rassemblement de l'UNI, de l'Éveil océanien et de Calédonie Ensemble. On sait aussi qu'en réponse au communiqué de la commission exécutive de l'UC, le ministre des Outre-mer avait adressé jeudi dernier une longue lettre au président, au secrétaire général et aux membres de l'Union calédonienne pour les convaincre du bien fondé de l'accord. Il parlait notamment d'une chance historique. Le refuser, écrivait Manuel Valls, ce serait risquer le retour à l'enlisement, à l'incertitude, voire à l'impasse politique aux conséquences durables. Il n'a manifestement pas été suffisamment convaincant.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et la réponse à notre question d'hier, 82% des auditeurs d'erreur qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils pensent que l'Union calédonienne va éclater après les tensions internes nées de la signature de l'accord de Bougival. Ils sont 18% à être d'un avis contraire. Voici notre question du jour. Regrettez-vous la fin de l'opération Livre mon ami qui, depuis 1997, favorisait la lecture chez les jeunes de CM2 et de 6e. Si vous regrettez la fin de cette opération, vous tapez 1. Sinon, vous tapez 2. Vous envoyez votre réponse au 3146. Le dispositif de continuité pays évolue. Un projet de délibération était débattu en ce sens aujourd'hui au Congrès. Le gouvernement souhaite rationaliser les dépenses liées à ce dispositif qui permet, rappelons-le, aux résidents des îles de bénéficier de trajets en avion ou en bateau entre Nouméa et les îles. Jean-François Bodin.
33 000 personnes bénéficiaient de la continuité pays en 2023 et 2024, un chiffre supérieur au nombre d'habitants des îles, selon le président du gouvernement, Alcide Ponga, qui porte le texte. Le recensement paru aujourd'hui indique en effet un peu plus de 21 000 habitants dans les îles. Pour rendre le dispositif de continuité pays, je cite, plus cohérent à ses objectifs initiaux, c'est-à-dire transporter les résidents effectifs des îles, il est donc proposé dans un premier temps de modifier les critères d'éligibilité. Une copie de la carte de l'aide médicale gratuite sera demandée en plus du justificatif de domicile. Le nombre de coupons délivrés est également réduit. 4 allées simples par avion et 5 par bateau pour une durée de 6 mois, au lieu de 10 allées par avion et 16 par bateau pour un an auparavant. Pour Alcide Ponga, cette réforme est nécessaire pour recadrer le dispositif et répondre à des obligations de réduction budgétaire.
Il y avait plus d'utilisateurs que de résidents. Mais ça, c'est parce que le dispositif le permettait. Donc il fallait réajuster les choses, il fallait recadrer les choses pour répondre à la définition concrète de ce qu'était la continuité territoriale et la continuité pays. Donc ça, c'est une des premières raisons. La deuxième raison, et ça je n'apprends rien à personne, c'est les contraintes budgétaires et financières de la Nouvelle-Calédonie. Et donc continuer avec un dispositif qui nous coûtait à des années pleines environ 720 millions par an, ça devenait impossible de pouvoir continuer à financer ce dispositif.
Les modifications du dispositif ont été adoptées à l'unanimité par les membres du Congrès après quelques débats entre les groupes indépendantistes et non-indépendantistes. La continuité pays fera d'ailleurs l'objet d'autres modifications au cours de l'année. Le texte adopté est en vigueur jusqu'au 26 février, en attendant une évolution du dispositif.
Ce qu'il y a comme particularité aussi, c'est que certains élus voulaient qu'on y ajoute sur cette continuité territoriale et continuité pays des critères de revenus. Cela était impossible dans les temps de le faire là, et donc on s'est accordé à ce que d'ici la fin de l'année, le gouvernement puisse poser une proposition de loi de pays et qui puisse intégrer l'ensemble de ces dispositifs pour rendre encore plus juste et plus équitable le dispositif.
Le projet de délibération adopté ce matin acte également le transfert de la gestion du dispositif Continuité Pays à l'Agence pour la desserte aérienne de la Nouvelle-Calédonie et à la Direction des Affaires Maritimes. Il était jusqu'à présent géré par Air Calédonie.
RRB, il est 17h56.
Les gardes à vue prolongées dans l'enquête visant David Guyenne pour abus de biens sociaux, blanchiment d'abus de biens sociaux et complicité de recel d'abus de biens sociaux. Trois personnes ont été arrêtées hier, dont le président de la CCI en qualité de co-gérant de deux sociétés. L'organisation garde à vue a été prolongée de 24 heures. C'est ce qu'indique le procureur de la République dans un communiqué, Elisabeth Noir.
Oui, l'enquête est née d'un signalement en 2023 des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie après un contrôle de la comptabilité de la SARL, l'édifice, les magasins Corail, indique le procureur de la République. Il est reproché aux mises en cause un montage frauduleux visant à organiser le rachat par la SARL, l'édifice, de parts surévaluées d'une SCI, puis d'opérer une fusion-absorption pour un montant d'1,1 milliard. La part de la SCI était évaluée à 1 000 francs entre 2010 et 2013 et elle était passée à 1 million de francs en 2017. Une vente à prix manifestement majorée s'est révélée très préjudiciable pour la SARL, l'édifice, qui s'est fortement endettée et qui a dû être placée en procédure de sauvegarde en 2024. Le parquet indique que cette fusion-absorption répondait à des motivations financières et fiscales au seul bénéfice des associés, dont David Guyenne, correspondant à un appauvrissement de la société de 2 milliards de francs. L'administration fiscale évalue pour sa part l'avantage illicite des gérants à 685 millions de francs. Des perquisitions ont été menées au domicile des mises en cause et dans leurs locaux professionnels. Dans cette procédure, le parquet a initié des mesures de saisie des avoirs criminels à titre conservatoire, portant sur des comptes bancaires ou des valeurs immobilières, ainsi que sur des biens immobiliers. Le procureur qui signe ce communiqué précise que la procédure se poursuit et que les personnes placées en garde à vue sont, pour le moment bien sûr, présumées innocentes.
Et la CCI réagit par voie de communiqué soulignant avoir pris connaissance des informations confirmées par le procureur de la République. Cette affaire concerne le président de la Chambre de commerce et d'industrie à propos d'une situation d'ordre personnel, indique le communiqué dans lequel la CCI rappelle le nécessaire respect de la présomption d'innocence. Indépendamment de cette procédure, la Chambre poursuit l'ensemble de ses missions au service des ressortissants, précise la CCI. En bref, deux fugitifs de Koné arrêtés âgés de 20 ans, ils s'étaient évadés du centre de détention de Koné le 13 mai 2025 vers 4h10. Ils ont finalement été interpellés dimanche lors d'un contrôle routier à la fois. La réponse de l'avocate du général Frédéric Marquilekia au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. L'exécutif apportait des précisions concernant la situation administrative du directeur de la DCGR et qui a été démis de ses fonctions le 16 juillet dernier. Mais pour Maître Nathalie Lepape, le gouvernement entretient un flou volontaire, voire tendancieux, Elisabeth.
L'avocate du général Marquilekia répond à son tour à un communiqué du gouvernement qui réagissait lui-même aux propos tenus la semaine dernière par Maître Lepape. Elle dénonçait alors un non-respect de la procédure qui mettait fin aux fonctions de son client. Dans le communiqué publié hier soir, le gouvernement souhaitait apporter des clarifications et rétablir les faits, mais Maître Lepape dénonce un communiqué tardif qui ne fait que réagir à ses propos et qui est, selon elle, juridiquement infondé et factuellement inexact.
Ma première réaction a d'abord été de sourire, car je crois que ce communiqué est un inédit. Il traduit un certain malaise du gouvernement dans son entier et qu'à trop vouloir se justifier, cela en devient presque, si vous me passez l'expression, suspect. Alors je l'ai lu bien sûr attentivement et je me livrerai bien à une analyse de texte parce que je pense qu'il y a beaucoup à redire et que les mots choisis ont un sens, mais je crois que ce serait surtout pour vos auditeurs quelque peu fastidieux. Ce temps viendra assurément dans le cas des recours que nous déposerons. Et finalement, ce recours est une nouvelle pièce qui vient donner du crédit à notre démonstration.
Dans son communiqué, le gouvernement indique notamment que le général Marquis Lecchia et son avocate ont été conviés à deux reprises à des entretiens et qu'ils ne se sont pas présentés. Maître Le Pape s'insurge contre cette présentation. Selon elle, le gouvernement omet notamment de préciser que son client a été convié sur sa boîte mail professionnelle qui avait été désactivée de façon unilatérale au mois de mars. Et elle relève toutes les entorses à la procédure. Pour l'avocate, le gouvernement avait toute latitude pour déplacer cette réunion et elle estime que les droits élémentaires de la défense n'ont pas été respectés. Elle confirme qu'en conséquence, les procédures prévues vont se poursuivre avec une plainte au pénal, une action auprès du tribunal administratif et éventuellement une procédure au civil.
Et dans son communiqué, le gouvernement ajoute que dans l'attente de la nomination d'un nouveau directeur opérationnel, il reste pleinement engagé à accompagner la restructuration de la DSCGR et que dans cette perspective, un partenariat a été établi avec la commune de Païta dont les services apportent un appui technique et organisationnel précieux. On sait en effet que Gwenval Cambon, chef de corps des pompiers de Païta, a été nommé directeur par intérim de la sécurité civile et de la gestion des risques de Nouvelle-Calédonie pour une durée de 3 mois. Au chapitre social, la Fédération Fonction Publique USTQE a déposé un préavis de grève pour demain mercredi dans l'ensemble des CMS des îles Loyauté. Le syndicat souhaite alerter l'exécutif provincial sur la situation très compliquée du service public de santé. Un service minimum sera assuré pour les urgences vitales, indique le syndicat dans un communiqué. Et puis un rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. Valérie Verdier, PDG de l'IRD, achève une visite en Nouvelle-Calédonie. Elle sera notre invitée demain matin à 7h30. Ce sera l'occasion de revenir sur les travaux de l'IRD, mais aussi sur son rôle et ses défis, notamment en matière d'appui aux politiques publiques, mais aussi d'évoquer le rôle et le rayonnement de l'IRD dans la région.
RRB, il est 18h03.
L'UGPE rencontrait la presse ce matin avec plusieurs points à l'ordre du jour, et notamment les suites des recours juridiques contre la délibération de la province sud à propos des critères d'octroi des bourses scolaires. L'Union des groupements des parents d'élèves avait déposé des requêtes face aux critères de 10 ans de résidence imposés pour avoir des droits aux bourses. Ces derniers jours, Gilles Brial, deuxième vice-président de la province sud, a répondu par courrier aux membres de l'UGPE, Jean-François Soutiquian, secrétaire de l'UGPE.
Il a fallu faire des recours avec des exemples d'enfants maternels, d'enfants en primaire, d'enfants en collège, en lycée et même jusqu'à l'université. Donc c'est ce qui a, je pense, incité la justice à sanctionner la province sud. Donc oui, ça avance d'un côté. On a reçu une lettre de Monsieur Gilles Brial il y a une semaine. Donc là, le tribunal administratif nous a donné raison. La province sud a accepté le principe de revoir cette délibération, ce qui va être fait jeudi. Donc on reste très vigilant pour vraiment s'assurer que ce jeudi, lors de l'Assemblée de la province sud, il y ait vraiment une délibération qui permette à toutes les familles qui résident en province sud depuis 6 mois, c'est-à-dire l'ancienne réglementation, de pouvoir obtenir la bourse pour leurs enfants de façon à ce que leurs enfants puissent disposer de bonnes conditions pour travailler.
L'Union des groupements des parents d'élèves a également présenté son séminaire sur l'éducation qui vise à repenser le système éducatif en Nouvelle-Calédonie. Des ateliers seront organisés dans les prochains mois en province sud, mais aussi en province nord et en province des îles. À l'occasion de la Journée internationale des peuples autochtones qui se tient le 9 août prochain, le Sénat coutumier a lancé ce matin son mois des institutions coutumières. Les sénateurs demandent plus de considération dans les débats sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie pour porter notamment l'identité kanak. Le président du Sénat coutumier, Maïgoué.
Il y a deux choses, quoi. C'est la question de la représentation coutumière. Enfin, l'idée, c'est d'amener à une représentation qui soit bien sûr représentative, mais surtout porter le Sénat coutumier, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a parlé d'élection des sénateurs, quoi. C'est un sujet qui fait débat. Mais l'idée, c'est que c'est la question de la transparence, mais surtout de la crédibilité des sénateurs qui sont amenés à porter la défense de l'identité kanak à ce niveau-là. Quoi. On se rend compte que voilà, des choses sont passées jusqu'ici, mais il fallait absolument qu'on élève la question de la défense de l'intérêt de l'identité kanak à ce niveau, quoi, institutionnel et étatique. Quoi. L'objectif, c'est les objectifs en interne, quoi, hein, sur le déroulé, sur l'accompagnement des préoccupations des populations locales, focus sur le projet d'accord Bougival.
Plusieurs rendez-vous ont été annoncés ce matin. Le 8 août aura lieu l'Assemblée générale des 8 pays kanak, puis le 25e congrès du pays kanak, les 29 et 30 août. Architecture contemporaine en terre et en fibre, c'est le nom de l'exposition qui a été inaugurée ce matin au Centre culturel Chibaou. Elle présente 24 projets de construction dans le monde entier récompensés pour leur utilisation de matériaux biosourcés et géosourcés, bambou, chanvre, paille ou même fibre de coco. De nombreux projets d'éco-construction s'inspirent de la tradition, y compris en Nouvelle-Calédonie, comme l'explique Pételo Sao, le membre du gouvernement en charge.
La rupture Terra Fibra, elle démontre les différents projets à l'échelle internationale, de comment dans le monde entier on utilise les matériaux biosourcés et les matériaux géosourcés. Cette exposition internationale, elle se termine par un exemple local, c'est celui du collège de Paillamboué. Donc c'est vraiment mettre en avant, en valeur, les différentes techniques, les différentes fibres qui sont utilisées à l'international. Et on voit qu'en Nouvelle-Calédonie, on est capable de s'inscrire dans ces dynamiques-là. Vous avez un panneau qui répertorie géographiquement les différents projets qui répondent à ces exigences-là de l'éco-construction, et ça valorise finalement notre savoir-faire qui était peut-être traditionnel mais qui s'inscrit pleinement dans la modernité.
L'exposition Architecture calédonienne durable a également été présentée ce matin. Elle met en lumière les techniques émergentes en Calédonie en matière d'éco-construction. Plusieurs échantillons de matériaux sont présentés, des isolants comme la ouate ou bien les mélanges de terre, de chanvre et de fibres de coco. Ils ont été réalisés par des étudiants du BTS études et réalisations d'agencement du lycée Petro-Atiti. Davis Takadi est étudiant en première année.
Du coup, nous, notre participation pour le BTS ERA a été les réalisations des échantillons et des panneaux explicatifs des différents matériaux ici qu'on peut utiliser en Nouvelle-Calédonie. Il y avait quand même des matériaux qu'on connaissait déjà de base, vu que c'est de la tradition, c'est notre culture. Mais après, dans la technique et dans la faisabilité, ça, c'était autre chose. Du coup, sur le moment où on les a faites, les échantillons, c'était un souvenir marqué pour moi. C'est incroyable. Ça m'a apporté beaucoup d'expérience, surtout au niveau de la collaboration avec une équipe chargée. C'est aussi de l'organisation sur le temps personnel, sur avec les cours. Du coup, ça se mélange, mais on essaye de quand même s'en sortir en faisant en sorte de réaliser le projet. Ça a été surtout de la découverte aussi. Ouais, là, je suis quand même assez fier là, de toute la réalisation jusqu'à aujourd'hui.
Et les deux expositions sont à découvrir dans l'allée centrale du Centre culturel Chibaou. Quels sont les dangers de la consommation du cannabis? C'était le thème de notre émission Citoyens ce midi sur Radio Rythme Bleu, alors que l'Agence sanitaire et sociale déploie une campagne de prévention sur le sujet. Le docteur Yann Barguil, pharmacien toxicologue, était l'un de nos invités ce midi. Il a mené de nombreuses études sur le cannabis en Calédonie.
Le cannabis calédonien est fort, se distingue par sa force. Alors, dans le cannabis, il y a plein de molécules qui sont intéressantes. Il y en a deux qui sont très intéressantes, c'est le THC, lui, il fait planer. Et il y a une autre molécule qui est le CBD, le cannabidiol, qui va contrebalancer les effets du THC. Et en Nouvelle-Calédonie, on a des plantes qui peuvent monter jusqu'à 15% de THC. Et chez les cannes, il n'y a pas du tout de cannabidiol, il n'y a pas du tout de CBD. Donc c'est une plante qui est nocive. La plante qui pousse de façon sauvage et nocive.
Oui. Invité également de notre magazine, Marilyn Mel, infirmière du programme Déclic à l'Agence sanitaire et sociale.
Le premier produit d'orientation à Déclic, c'est le cannabis. Donc ça nous semblait important de pouvoir mettre en place une campagne d'information. On voit souvent qu'il y a des idées reçues, qu'on nous dit en consultation que le cannabis, c'est pas dangereux, que c'est une plante, que c'est naturel, qu'il n'y a pas de problème, que tout le monde fume, que ça peut passer...
Il y a une banalisation de la consommation.
Une banalisation de la consommation, oui. Il y a des gens qui fument du cannabis comme du tabac. Ça a des impacts de fumer du cannabis, donc des modifications de la perception, de la réalité, des modifications dans le fonctionnement du cerveau, de l'attention, de la concentration, l'organisation de la pensée. Voilà, quelqu'un qui fume régulièrement du cannabis, ça a quand même beaucoup de mal à suivre des cours, à suivre une formation, à s'intégrer dans la société. Ça peut être plus compliqué.
Voilà. Et le magazine Citoyen est à retrouver en podcast sur notre site internet, c'est le www.rrb.fr. Patrick Bruel en concert en Nouvelle-Calédonie, ce sera le 25 octobre prochain à l'Arène du Sud de Païta. L'annonce a été faite en fin de semaine dernière par Sony Aline Productions. La société de production est très heureuse de pouvoir reprendre ses activités en Calédonie après la crise Covid et les émeutes de 2024, nous a dit sa directrice Sony Aline.
Nous organisons des spectacles depuis plus de 25 ans et pour nous, c'était important de reprendre. On a bien vu pendant la crise de Covid à quel point la culture était finalement essentielle. Et c'est un peu ça aussi, après ce qui est arrivé, on a attendu pour voir un peu ce que ça allait donner. Et en fait, on s'est dit que c'était l'occasion maintenant de reprendre l'activité des spectacles afin de donner un petit peu de bonheur. Alors ça dure 2 heures, mais c'est toujours ça de pris, c'est toujours un moment d'évasion, toujours très apprécié. Et puis, reprendre les concerts avec un artiste comme Patrick Bruel, c'était aussi pour nous important de reprendre avec une grande star internationale.
Et c'est un concert XXL de Patrick Bruel auquel les Calédoniens pourront assister.
C'est une tournée qu'il mène depuis déjà un an avec 600 000 spectateurs, plusieurs centaines de dates. Et en fait, il terminera cette tournée par la Nouvelle-Calédonie et Tahiti. Et c'est une tournée un best-of, c'est-à-dire qu'il interprétera toutes les chansons, tous les tubes que nous connaissons de Patrick Bruel. Il sera accompagné de ses musiciens. Donc c'est le concert que vous pourrez voir en métropole, donc que l'on va faire ici en Nouvelle-Calédonie, donc le produire localement. Patrick Bruel était venu en 1992 déjà. C'était il y a bien longtemps, mais en tous les cas, il se rappelle de la Calédonie, il se rappelle de l'accueil très chaleureux qu'il avait reçu. Et c'est avec un grand plaisir que Patrick Bruel et sa production réitérera ce concert en Nouvelle-Calédonie.
Patrick Bruel en concert en Nouvelle-Calédonie, ce sera le 25 octobre prochain. Les réservations sont ouvertes sur le site ticketpacifique.nc. 18h12, on va marquer une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité dans la région Pacifique, le sport et la météo.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Gédimat, 51 rue Auer à Ducos, c'est le partenaire des pros et des particuliers. Peinture, lasur, revêtement de sol et mur, salle de bain, produits techniques, étanchéité, électroportatif et calcaillerie. Gédimat, 25 98 84 ou sur Facebook, Gédimat Nouméa.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La fin de votre journal Le Sport avec Lionel Sabot.
Alors, l'actualité dans la région Pacifique. Avant cela, à Wellington, le Premier ministre de Nouvelle-Zélande, Chris Laxon, a annoncé qu'il recevra dans les tout prochains jours son homologue des îles Salomon, Jérémy Amanelli. Correspondance Jean-Pierre Zajac.
Annonçant l'information par voie de communiqué, Chris Laxon a déclaré que les îles Salomon, je le cite, sont un partenaire important pour la Nouvelle-Zélande. Et je me réjouis donc d'en recevoir le Premier ministre et de renforcer avec lui nos bonnes relations bilatérales. Notre pays, a-t-il poursuivi, entretient un partenariat de longue date avec les îles Salomon, notamment en matière de développement dans les domaines de l'éducation, de l'économie et de la consolidation de la paix. Chris Luxon a également déclaré qu'il sera intéressant d'écouter ce que Jérémy Amanelli aura à lui dire sur la préparation du sommet annuel du Forum qui se tiendra aux îles Salomon courant septembre. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Venons-en à l'actualité sportive. Maxime Grousset va tenter de continuer sa moisson de médailles demain aux Mondiaux de natation à Singapour. Après avoir décroché l'or la nuit dernière sur le 50 mètres papillon, le Calédonien défendra son titre sur le 100 mètres papillon, des Mondiaux qui lui donnent déjà un nouveau statut.
Ça signifie beaucoup de choses. Ça veut dire que déjà je suis en forme pour la semaine de compétition. Maintenant, faut bien récupérer, bien sûr. Mais ça signifie aussi que je suis, pour l'instant, le meilleur sur 50 mètres papillon. Et c'est une distance qui est devenue olympique. Donc c'est une chance de médaille en plus pour moi. Et pour la semaine, ça veut dire beaucoup de choses. Après, il faut savoir répéter les courses et les performances. Je pense que j'en suis capable. Donc ça donne... peut-être que c'est un peu le début comme Léon Marchand quand il gagne au 404 nage. On dit, ça y est, c'est parti, compteur des médailles. Pour une fois, c'est moi, ça fait plaisir.
Maxime Grousset qui sera aligné dans la 10e série du 100 mètres papillon demain à 13h49, heure de Nouméa. En cas de qualification, les demi-finales sont prévues aux alentours de 22h30. Viendront ensuite d'ici la fin de la semaine, le 50 et le 100 mètres nage libre. On termine avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménagé.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous Pierre.
La nuit s'annonce calme, dominée par un ciel clair à peu nuageux, favorisant la formation de bancs de brume par endroits. Le vent s'orientera en secteur sud, soufflant entre 10 et 15 nœuds et faiblira progressivement jusqu'à 10 nœuds en toute fin de nuit. Les températures minimales perdront quelques degrés, elles oscilleront entre 10 et 15 degrés à l'intérieur des terres et sur les îles Loyauté, et entre 16 et 20 degrés sur le reste du territoire. Demain matin, quelques nuages résiduels sur l'extrême sud en début de matinée, le soleil s'apposera rapidement sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Le vent soufflera de sud à sud-est, généralement modéré entre 5 et 10 nœuds.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info continue à suivre dans un instant le journal de la rédaction d'Europe 1. Et à 18h30, Jacques Sorret recevra Paul-André Colombani, député Lyotte de Corse du Sud. Passez une très bonne soirée. À tout à l'heure, 19h.